Bonjour frères et sœurs en Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous encore ce matin. Je lèverai mes mains, je célébrerai Dieu, notre Père, notre Dieu. C'est ça notre raison d'être. Oui, nous sommes nés pour ça. Nous sommes nés pour célébrer notre Dieu. Il est vrai que ce matin, j'ai eu tous les problèmes de ce monde pour le transport pour venir ici. Mais je rends grâce au Seigneur, il m'a amené. Je suis arrivé à Châtelet, la ligne 14 a été fermée depuis la nuit, puisqu'ils ont travaillé la nuit, ils n'ont pas pu terminer, et que voilà, je suis bloqué là. Mais il fallait faire le détour et passer par là pour venir ici. Mais je rends grâce à Dieu. Il est merveilleux. Il a voulu que je sois là ce matin, et je suis là pour son nom. Et ce matin, je voudrais justement rapidement aller dans la parole de Dieu, et je voudrais, si le Seigneur veut bien, commencer une série de prédications et concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la seconde venue de Christ, comme on le dit souvent, et tel que justement la Bible l'a enseigné. Et durant au moins 5 à 6 dimanches, peut-être je ne parlerai que du retour du Seigneur, lorsque j'aurai l'occasion de venir ici à Argenteuil pour le message du Dieu. Et si c'est même c'est une fois par mois, ça fait peut-être 5 à 6 mois. Il est vrai, mais c'est pour parler du Seigneur, hein, du retour, ce n'est pas quelque chose de... On peut le faire en plusieurs années d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, je vais parler du retour, une première partie justement. Et ce matin... Le message, je l'ai intitulé « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. Il est vrai, je suis conscient, je viens de le dire tout à l'heure, qu'en une prédication de 30 à 40 minutes, on ne peut pas tout dire concernant le retour de notre Seigneur. Et mais l'essentiel pour nous, oui, l'essentiel pour nous chrétiens, c'est de se rappeler que le jour viendra. De se rappeler que certainement il a dit que je reviendrai et ce jour-là viendra. Amen. Et comment serons-nous? Il faudrait que nous soyons prêts. C'est toujours difficile pour l'homme d'être prêt pour quelque chose. L'homme est tellement têtu d'une certaine manière qu'on peut lui dire la chose de plusieurs manières. Et quand tu vois les Israélites, c'est la même chose ce qui s'est passé. Et donc ce matin, je vais essayer de développer un tout petit peu et ce que le Seigneur voudrait nous dire lorsqu'il dit « Je reviendrai, je reviens bientôt ». Mais avant toute chose, inclinons-nous dans la prière. Oui, Seigneur Dieu miséricordieux, je te bénis, je te rends grâce encore ce matin pour cette opportunité que tu m'as donnée d'être là encore. Merci Seigneur, parce que le chemin a été long, le parcours a été long, mais Seigneur, tu m'as ramené et je te remercie pour tout ce que tu es, parce que ta parole, elle est certaine. Tu voudrais vraiment que nous annoncions ta parole en toutes choses. Et je te remercie vraiment pour cela. Merci de bénir mes frères et sœurs qui sont là. Père, bénis-les. Si quelqu'un parmi nous ce matin qui n'a pas encore Jésus-Christ, ta vie, dans sa vie, Seigneur Jésus, je prie, afin qu'à travers ce message, qu'il vienne à toi, Seigneur, parce que tu es la vie, tu es le chemin. Et personne ne peut aller au Père sans passer par toi. Tu l'as dit. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen.
Je viens bientôt. Telle est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ prononcée aux églises de l'Asie mineure en ce temps. Et en ce temps, Jésus a parlé 4 fois dans le livre de l'Apocalypse qu'il revient bientôt. Je viens bientôt. Et donc, la première fois que Jésus-Christ a parlé de cela, c'était dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et en d'autres fois, les 3 autres fois, c'était dans la conclusion du livre de l'Apocalypse, bien justement, au chapitre 22, le verset 7, il dit encore, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et au verset 12, il dit encore, « Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et enfin, à l'avant-dernier de la Bible, hein, l'Apocalypse chapitre 22, le verset 20, il dit encore, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Amen. Et l'apôtre Jean, en concluant son livre, il écrit, « Je viens, bien, viens, Seigneur Jésus. » Et l'apôtre Paul, lui, il a dit en amérien, « Maranatha, Maranatha, notre Seigneur vient. » Oui, c'est une formule que les premiers chrétiens prononçaient en ce temps-là. « Maranatha, Jésus vient. » Dans les livres de l'Ancien Testament, plusieurs prophètes ont annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont annoncé le Messie. Mais les contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ se sont laissés surprendre. Comment ils se sont laissés surprendre? Eh bien, certains d'entre eux attendaient encore et toujours la venue du Seigneur, la venue du Messie qui a été promis. Et qui était ce Messie qui a été promis? Et quel est ce Messie qu'attendaient ces Juifs? Jésus est appelé dans Matthieu chapitre 1, verset 16, le Messie. En fait, parler de Jésus-Christ revient à dire que Jésus est le Messie, puisque Christ signifie Messie. Et Christ signifie aussi « oint ». Et donc, Christ, Jésus le « oint ». Et donc, l'Ancien Testament annonce la venue du Messie. Et le Nouveau Testament révèle la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est pour cela que les deux vont de pair. L'Ancien l'a annoncé et le Nouveau l'a révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple juif attendait un Messie qui répondait à certain nombre de caractères qui sont basés sur la prophétie de l'Ancien Testament. Et quels sont ces critères dont ils attendaient? Et ces critères, il fallait que le Messie soit un Hébreu. Ça, c'est en Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Il fallait que le Messie soit né à Bethléem. Ça, c'est en Michée, chapitre 5, verset 2. Et d'une vierge, Ésaïe l'a dit en chapitre 7, verset 14. Il fallait que le Messie soit un prophète semblable à Moïse. Semblable à Moïse. Et c'est Deutéronome, chapitre 18, qu'il a dit. Il fallait que le Messie soit un sacrificateur, non selon l'ordre de Moïse, mais selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, Melchisédek. Et donc ça, on peut le voir en Psaume chapitre 10 et 110, le verset 4. Il fallait donc que le Messie soit un roi. Ésaïe 11, verset 1 à 4, nous l'a dit. Il faudrait que le Messie soit le fils de David. Ça, c'est Matthieu 22, nous l'a dit au verset 42. Et ce Messie doit souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Ce Messie doit souffrir. il doit souffrir. Et notre Seigneur Jésus-Christ répondait à tous ces critères. Tous ces critères que nous venons de citer, le Seigneur Jésus-Christ répondait à tous ces critères-là. Il était hébreu, de la tribu de Judas, en Luc 3, 30. Il était né justement à Bethléem, en Luc 2, 4 à 7. Il était né d'une femme vierge, comme Luc nous l'a dit en Luc 1, chapitre 1, 26 à 27. Et donc, la plupart des Juifs en ce temps-là attendaient encore un roi Messie. Ils attendaient un nouveau David. Pourquoi un nouveau David? Parce que David était un homme de guerre. David a fait la guerre. Et eux, ils voudraient un Messie comme cela, comme David. Faire la guerre, c'est ce qu'ils veulent. Et ils ne veulent pas un Messie souffrant. Non. Ils veulent quelqu'un, un sauveur, qui est politico-religieux, comme le dit, sur la politique et religieux. Celui-là qui va les délivrer des mains des Romains en ce temps. C'est ce qu'eux, ils voudraient. Ils ne voudraient pas un Messie souffrant. Mais Dieu a veillé justement à sa parole. Dieu a toujours veillé à sa parole. Il a veillé à sa parole à ce que toutes les prophéties se réalisent avec exactitude. Avec exactitude. Jésus donc, il est arrivé effectivement chez les siens, comme la Bible nous l'a dit. Jésus est effectivement arrivé et la Bible nous dit que les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Quel dommage! Quel dommage que les siens ne l'ont pas reçu, de reçu. Et c'est difficile de concevoir cela, qu'au lieu d'être reçu, eh bien, le Sauveur, le Seigneur, a été condamné à mort. Il a été crucifié. C'est ce qu'ils ont fait du Sauveur. La Bible nous dit que 3 jours après sa mort, le Christ est sorti vivant du tombeau. Vivant. Et c'est ce que nous appelons la résurrection. Et donc, après sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ demeura 40 jours. 40 jours parmi ses disciples. En enseignant. En quoi? Sur le royaume de Dieu. En leur conseillant. En leur disant ce qu'ils doivent savoir sur le royaume de Dieu. Et donc, au cours de cette période de 40 jours, il est vrai, il s'est apparu sur plusieurs personnes d'entre eux. Plusieurs personnes ont été mentionnées dans le livre, dans l'épître Corinthiens, chapitre 15, à partir de verset 5. Vous verrez, il y a un certain nombre de personnes qui ont été citées là, dont Paul. Et lui-même le dit, comme à l'avortant. Paul se prend comme à l'avortant. Il le dit lui-même, un avortant, hein, c'est quelqu'un qui est né prématurément. Et donc, Paul, il est le moindre des apôtres. Paul est le moindre des apôtres parce qu'il a persécuté l'Église. Il a fait du mal au corps de Christ. Et donc, il se nomme que Jésus-Christ s'est présenté à lui comme à l'avortant. Mais la grâce de Dieu est toujours présente dans la vie de tout un chacun de nous. La grâce de Dieu est sur Paul. Et Paul est devenu ce que nous savons, ce qu'il était en son temps là. Après quoi, notre Seigneur Jésus-Christ s'est élevé dans les airs jusqu'au ciel où aujourd'hui la Bible nous dit qu'il est assis à droite du Père et il fait quoi? Il intercède. Il intercède pour ses frères. Il intercède pour les chrétiens. Il intercède pour nous aussi. Pour nous, nous sommes dans la joie. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que la parole de Dieu nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qu'à tous ceux qui croient en son nom, eh bien, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, non pas par la volonté des hommes, non pas par la volonté d'une femme et d'un homme, mais c'est par la volonté de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes devenus des enfants de Dieu, des enfants, comme je peux le dire, adoptifs de Dieu, parce que nous ne sommes pas dignes. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Et donc tout ce qui est dans ce livre nous concerne également. Tout ce qui est dans ce livre. Il y en a qui disent que non, c'est pour les Israélites, c'est pour les Juifs. Non, c'est pour nous aussi qui avons reçu notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Nous qui avions choisi de marcher avec lui, tout ce qui est dans ce livre nous concerne. Et nous devons l'aller chaque jour. Voir ce que le Seigneur peut me dire. La Bible, elle est unique. La même parole prêchée depuis des millénaires, plus de 2000 ans déjà. C'est la même chose. Et quand tu la lis aujourd'hui, il te donne encore un nouveau départ. Il te donne encore quelque chose de nouveau. Et tu diras, mais est-ce que ça, j'avais déjà lu la fois passée? Mais le Seigneur passe par ce que tu avais lu la fois passée pour te dire encore quelque chose. Et donc, nous devons chaque fois consulter ce livre-là. Pourquoi fallait-il que Jésus-Christ soit crucifié? Pourquoi? Et donc, en Jean chapitre 10, lui-même, il a dit en Jean chapitre 10 que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Il dit, j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Le pouvoir de donner et le pouvoir de la reprendre. Et il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Dieu créateur de toutes choses a aimé son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement obéissant à Dieu, son Père. Il est parfaitement obéissant à lui. Il a accepté de mourir et de ressusciter afin de faire quoi? De sauver des brebis. De sauver des brebis. C'est pour cela qu'il est mort. Pour sauver des brebis. Et il est d'accord pour venir souffrir. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, Jésus-Christ, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui sauve. Il sauve. Il continue toujours de sauver. Et nous devons avoir cette certitude-là. L'ordre de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie afin de la reprendre. C'est l'ordre de Dieu le Père. Il faudrait que Jésus-Christ donne sa vie et après, il doit la reprendre. Il ne peut y avoir, oui, de résurrection sans qu'il n'y ait auparavant une mort. Sans la résurrection, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. La mort et après la résurrection. Donc, afin de triompher de la mort, eh bien, pour nous libérer de la domination, de la condamnation, du châtiment qui nous a été réservé, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a dû passer par la mort. Lui-même, par la mort. Dieu-même a passé par cela pour pouvoir sauver l'homme. Et la Bible nous dit en Actes chapitre 1, le verset 3, qu'après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et pendant ces 40 jours, le Seigneur Jésus ne parla que tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et donc, en lisant le verset 9 de Actes chapitre 1, à partir du verset 9 à 11, il est dit, après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Le verset 10, mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Et ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez à regarder au ciel. Mais pourquoi? Pourquoi? Jésus vous a quitté pour aller au ciel. Il vous a quitté pour aller au ciel. » Il dit, « Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Amen. Il reviendra de la même manière. De quelle manière il est parti? Et de quelle manière il reviendra? Et tout est là. Tout est là dans la Bible pour nous. Les apôtres ont vu. Il était enlevé. Et l'ange leur dit, vous le verrez de la même manière que vous l'avez vu en partie. De la même manière, vous le revenez revenir. Vous le verrez revenir. C'est ça la parole de Dieu. Jésus revient. Il revient de la même manière qu'il est parti au ciel. La question maintenant, pourquoi reviendra-t-il? Pourquoi Jésus reviendra-t-il? Quel est le but de son retour? Quel est son but? Ben, on a toujours un but. On a toujours un objectif pour faire quelque chose. Ben, il ne peut pas revenir pour rien faire. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une vérité. Une vérité d'une grande importance. Une vérité qui est souvent négligée, oubliée par les chrétiens eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent la vérité. Parce que beaucoup de chrétiens ignorent la vérité et ils camouflent la vérité. On ne devrait pas camoufler la vérité. Le temps là où nous sommes maintenant, c'est de prêcher le retour de Dieu. C'est de prêcher le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le temps est proche. C'est de prêcher le retour de Dieu. Oui, parce qu'il a dit, je reviendrai. Depuis plus de 2000 ans. Hier, je devais aller puisque j'ai décidé de participer à l'évangélisation. Et j'étais à la gare en train d'attendre mon train. Et j'ai vu une jeune fille. Elle était assise avant que je n'arrive, habillée d'une certaine manière. Je ne sais pas, je ne peux même pas, je ne veux pas même la regarder. Je suis assis, mais là où je dois faire l'évangélisation, je ne connais pas le lieu très bien. Il faudrait que je demande, je ne vais pas consulter avant de partir. Et donc, il faudrait que je demande à quelqu'un, « Ok, je vais à tel lieu, quel métro je vais prendre ?» Et quelque chose m'a dit, fouille dans ton sac. J'ai toujours des traités bibliques dans mon sac. Et pour demander à la jeune fille, où est-ce que je vais trouver ce métro pour aller là où je vais? Dieu m'a dit, parle lui d'abord. Et j'ai fait sortir un traité biblique là où il a été écrit comment connaître Dieu. Un petit traité vert là. J'ai fait sortir, j'ai dit, bonjour, comment vous allez? Ça va? Est-ce que vous aimez ça? Je lui montre. Est-ce que vous aimez ça? Non, je suis athée. Hein? Tu es athée. Une jeune fille. Tu es athée, mais pourquoi tu es athée? Et je veux savoir pourquoi tu es athée. Oui, mais ma maman, elle est chrétienne, ma maman, elle est catholique, moi, je suis athée. Pourquoi tu es devenu athée? Tu sais, mais moi, je n'étais pas chrétien avant, mais moi, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Je suis devenu chrétien, moi aussi. Mais pourquoi toi, tu es athée? Incapable de me dire pourquoi elle est athée. Mais je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait refusé après, elle a pris. Et j'ai prié pour que, heureusement, le train est arrivé et on s'est séparés. Et je prie, j'ai encore prié hier nuit que ce que cette jeune dame a dit que je suis athée et elle a pris ce traité de comment connaître Dieu. C'est très important. Comment connaître Dieu? Et l'athée va lire. Et je prie pour cela. C'est de comme cela. Il y a beaucoup de gens ici à Paris qui se disent encore athées. Qui ne veulent pas, alors nous sommes, qui ne veulent pas reconnaître que Jésus viendra bientôt. Mais nous avons du pain sur la planche, nos chrétiens. Il faudrait que nous évangélisons. Partout où nous sommes, nous avons cette responsabilité-là. d'évangéliser, de dire que le règne de Dieu est proche. C'est ce que nous devons dire aujourd'hui. Les gens l'avaient dit, mais nous aussi, nous devons continuer toujours à dire, le règne de Dieu est proche, repentez-vous. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ne soyons pas de ceux-là qui risquent de se faire surprendre en mettant toujours la parole de Dieu en doute. Non, en dissimulant la vérité, en ne voulant rien savoir sur le retour du Seigneur, ne soyons pas de ces personnes-là. Nous devons savoir qu'il y a des signes annonciateurs aujourd'hui de son retour. Il y a des signes annonciateurs. Des signes qui s'accomplissent déjà. Conformément à la parole de Dieu, conformément à la prophétie, il y a des signes qui se manifestent. Jésus-Christ lui-même a mis en garde ses contemporains en leur disant, en Matthieu 24, versets 6 à 7, il dit, « Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. » Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, mais ce n'est pas encore la fin. Il dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des divers lieux. Il y en aura des divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Mais il est vrai, frères et sœurs, que même si ces phénomènes ont toujours, ces phénomènes que nous venons de citer, ont toujours existé, en tout temps, nous devons aussi savoir que l'intensification de ces choses aujourd'hui peut nous dire quelque chose. L'intensification de ces choses peut vous nous dire quelque chose. Il y a des choses qui se passent actuellement. Ces choses-là sont passées depuis lorsque Jésus-Christ était là, avant lui, après lui. Il y a des choses qui se passent encore aujourd'hui. Et donc, toutes ces choses-là constituent effectivement des signes caractéristiques. Et de plus, Jésus-Christ a annoncé que des hommes entendraient parler de ces phénomènes-là. Et mais oui, les athées même aussi entendraient parler de ces phénomènes. Et aujourd'hui, nous avons le développement des moyens d'information, l'Internet, les médias, les radios, tout. Et quand la chose se passe ici aujourd'hui, en quelques minutes, partout dans le monde, cette information-là est relayée partout. Partout. Et c'est ça, l'évolution. L'évolution de l'Internet aujourd'hui, l'évolution de l'information. Tout ce qui se trouve à l'autre bout du monde sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui, ici à Paris. Et la Bible nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, en fait, avec la Bible? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Que le jour du Seigneur viendra dans la nuit comme un voleur. Un voleur vient toujours dans la nuit, dans l'improviste. C'est ça. Un voleur ne peut pas venir dans ta maison te voler comme cela. Non. Il viendra dans l'improviste. Et cette parole, elle est certaine. Il vient pour juger les nations. Il vient pour rétribuer chacun selon ses œuvres. Et la Bible annonce son retour, effectivement, non plus comme un sauveur, mais comme le Seigneur qui va juger la nation, juger tout. Et la Bible nous dit que cela va commencer même dans la maison de Dieu. Cela va commencer dans la maison de Dieu. Mais c'est ce que nous devons savoir, que le jugement commencera dans la maison de Dieu, avec les enfants de Dieu. C'est là. Et après, il y aura des cris, des grincements de dents, puisque pour nous, notre jugement, pour les chrétiens, c'est intéressant. C'est différent du monde. Mais la Bible dit qu'il y a des grincements dedans. Comment tu as vécu cette vie? Comment tu l'as fait? Comment tu le fais maintenant? Comment tu penses le faire demain? Comment tu es chrétien? Est-ce que ta vie de chrétien que tu es, est-ce que les gens du dehors savent que tu es chrétien? Ou bien les gens du dehors te considèrent comme païen? C'est ça. On va nous juger pour toutes ces choses-là. Et donc, nous devons rester vigilants. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur. Eh bien, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ comporte plusieurs aspects que je vais rapidement rappeler ici. Et il y a beaucoup de choses à dire. J'avais dit qu'il faudrait que je ne peux pas le faire en quelques minutes. Hein? Mais ce que nous devons savoir rapidement, c'est que il y a la première résurrection, l'enlèvement et le rassemblement de tous les élus dans le ciel et qui doivent venir. Et toutes ces choses-là doivent se dérouler telles que la Bible l'a dit. Il y aura aussi ce qu'on appelle les noces de l'agneau, c'est-à-dire qu'il y a eu une fête de mariage avec notre Seigneur Jésus-Christ. En deux, il y aura le jugement des nations, le rétablissement du royaume d'Israël. Il y a aussi l'avènement du royaume de Dieu. L'avènement du royaume de Dieu où notre Seigneur Jésus viendra régner. Hein? Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ régner sur cette terre. Et donc, la première raison de son retour nous concerne. La première raison de son retour nous concerne. Elle concerne les chrétiens de tout temps. Elle nous concerne parce que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, oui, ils vont subir cela, cette résurrection du corps, hein, du corps et notre enlèvement aussi. Et Jésus viendra enlever justement son Église et son Église serait avec lui. Et lui-même, il a dit en Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Cela a été dit aux apôtres, cela a été dit aux chrétiens d'alors. Mais cette parole, elle est toujours de vigueur aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Voilà, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, je voudrais aller rapidement. C'est bien. Là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le Seigneur qui le dit. Est-ce que celui-là, c'est un menteur? Est-ce qu'il peut dire quelque chose qui ne va pas le faire? Mais non. Nous devons comprendre que le Christ, qui connaît chacune, je dis bien chacune de nous, chacune de ses brebis, notre situation terrestre, ce qui se passe en nous actuellement, le Seigneur Jésus connaît. Même si nous sommes là aujourd'hui avec des difficultés, avec des maladies, des souffrances, Christ est là pour nous. Moi, j'ai cette conviction et j'aime toujours le dire que si j'ai la vie aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui a voulu que je sois encore ici aujourd'hui et prêcher la parole de Dieu. Il veut que je le fasse comme de cette manière. Sinon, je serais déjà mort au Togo. Mais non, il a dit non, mon fils Daniel, tu as encore des choses à faire. Et je suis en vie aujourd'hui. Je serai toujours en vie pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, oui, le jour vient. Je vais m'arrêter là puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Je reviendrai après parler peut-être de la deuxième raison de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège. Que nous soyons éveillés, vigilants pour attendre ce jour. Ça peut arriver tout de suite. Ça peut arriver. Lorsque j'ai raté, en fait, j'ai tout ce problème-là, et à la gare, je dis, mais il est 11h, comment je vais faire? Bon, Seigneur, est-ce que tu ne veux pas que je prenne cette parole aujourd'hui? Ok, fais quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. J'ai commencé par appeler. Alors, heureusement, je suis tombé sur Maman Brigitte, Elle est là, elle m'a appelé. Elle m'a rassuré que quelqu'un viendra à la gare me chercher. J'ai dit, merci Seigneur. Ce que tu m'as dit de le dire, je le ferai. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment.